Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'innovation en pratique » de la D-School Paris de l'École des Ponts Paris Tech. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique, entre autres, du design thinking. Pour notre quatrième saison, nous aborderons des thématiques autour des expertises en innovation et design explorées par la D-School Paris. Nous vous proposons donc de nouveaux intervenants autour d'univers différents comme le design thinking, le design fiction et le design soutenable. Et qui, j'espère, vous inspireront autant que nous. Bonne écoute!
Bonjour, je suis Valentine Perrin de l'équipe de la D-School Paris. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guylaine Grave, fondateur de l'agence Big Bang Project, qui fait dialoguer de pair le design, les sciences et les technologies au service du vivant. Bonjour Guylaine.
Bonjour Valentine.
À travers cet épisode, j'aimerais approfondir le sujet de la bio-inspiration. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter?
Oui, bien sûr. Je suis designer, cela fait une quinzaine d'années que je m'intéresse au vivant en tant que source d'inspiration et j'ai aujourd'hui plusieurs casquettes. Donc, je dirige une agence qui s'appelle Big Bang Project qui a trois missions, la recherche, l'innovation et l'éducation par le design et le biomimétisme. Et l'agence est également membre fondateur de la SKIC Sébios qui est le hub français du biomimétisme, mais également membre du consortium Biomig, une plateforme de caractérisation et de prototypage de matériaux bio-inspirés. À côté de ça, je suis aussi enseignant en design biomimétique depuis 2013 à l'ENSI. Je suis également collaborateur du centre de recherche en design qui appartient à l'ENSI et l'École normale supérieure Paris-Saclay et responsable du Master of Science Nature Inspired Design qui est la première formation diplômante en design et biomimétisme en France.
On va revenir ensemble sur une démarche qui favorise le développement d'innovation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste la bio-inspiration et nous aider à définir, caractériser quels sont les grands concepts qu'elle englobe ?
Alors ces grands concepts, ils ont été définis dans un article qui s'appelle « Le biomimétisme, un outil d'innovation durable » qui est disponible dans Technique de l'ingénieur de 2017, où l'on définit les grands termes que l'on va aujourd'hui retrouver autour de ces questions de bio-inspiration. Alors on a défini la bio-inspiration comme un processus créatif qui puise son inspiration dans un ou plusieurs systèmes vivants. Et au sein de cette bio-inspiration-là, on va retrouver des approches comme le biomimétisme, dont on va parler, et la biomimétique par exemple. Donc la biomimétique, c'est, on dit, un processus créatif interdisciplinaire entre la biologie et la technologie qui vise à résoudre des problèmes anthropocentriques par l'abstraction, le transfert et l'application de connaissances issues de modèles biologiques. En d'autres termes, on va chercher à générer des innovations grâce à la bio-inspiration. Le biomimétisme, lui, est une approche un peu différente, presque philosophique, qui va consister à prendre la nature comme modèle à différentes échelles, notamment au niveau organisationnel, pour répondre aux enjeux du développement durable. Et donc le biomimétisme intègre des outils d'éco-conception pour pouvoir justement aider cette démarche à la soutenabilité. Et donc on a également deux normes ISO qui ont été proposées et définies en 2015 pour pouvoir bien définir ces termes, notamment la norme ISO 18458 et la norme ISO 18459 qui définit en fait le biomimétisme et la biomimétique.
Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que toi tu te situes à travers ta démarche de designer biomiméticien ?
Alors, le vivant, donc les systèmes vivants plus particulièrement, on va les prendre comme modèle à différentes échelles. Le biomimétisme est une approche multiscalaire. On peut s'inspirer du vivant de l'échelle nano à l'échelle macro en passant par l'échelle écosystémique. Et c'est toutes ces différentes échelles que l'on va regarder. Et regarder le vivant à l'échelle de la structure, à l'échelle du fonctionnement d'un organe, à l'échelle du fonctionnement d'un organisme, à l'échelle d'interactions ou de comportements qui peuvent exister au sein d'une même communauté d'espèces ou entre différentes communautés d'espèces à l'échelle d'un écosystème, voire même à l'échelle de la biosphère plus largement, peuvent nous inspirer des innovations qui elles-mêmes vont s'incarner à différentes échelles, de celle du matériau à celle de l'organisation, en passant par des innovations produits, services, à l'échelle d'habitat, des façons d'organiser les quartiers, les villes ou les territoires. Et donc c'est ça qui est aussi assez intéressant, c'est que à l'origine, moi j'ai une formation de designer industriel, j'ai été formé pour concevoir des produits ou des services, donc j'ai plutôt travaillé de l'échelle du dixième de millimètre à l'échelle du mètre maximum. Et là, le fait d'adopter une approche qui est vraiment multiscalaire me demande d'explorer en fait d'autres échelles d'inspiration, mais aussi de conception. Et aujourd'hui, je travaille de l'échelle du nanomètre à l'échelle de la centaine de kilomètres, ce qui est vraiment une nouveauté pour un designer et demande aussi de réinventer nos méthodologies et nos outils.
Donc tu as différents niveaux d'analyse, différentes échelles d'implémentation également. Avec quel secteur est-ce que tu travailles aujourd'hui ?
C'est une approche que l'on peut effectivement appliquer à différents secteurs. On va pouvoir travailler dans les champs du sport, de la santé, de l'hygiène, de la mobilité, du spatial, de l'énergie, de l'habitat ou encore de l'alimentation et de l'hydratation. On va pouvoir travailler sur des thématiques qui sont très variées, qui vont de la dépollution de l'air, de l'eau et des sols, ou encore traiter la question de l'accès à l'eau potable pour toutes et tous. Ou encore, on va chercher à appliquer cette méthodologie-là pour pouvoir justement préparer des solutions régénératives à l'ensemble des problématiques posées au sein de ces différents secteurs.
Du coup, est-ce que c'est une démarche qui tend à se répandre en entreprise ?
Complètement. C'est une approche que l'on travaille avec des grands centres de recherche ou des grands groupes industriels majoritairement. Alors, on travaille un petit peu moins avec des plus petits acteurs parce que c'est une démarche qui demande, on va dire, un temps important et potentiellement des investissements, comme on est sur une approche qui nécessite l'apport de différentes disciplines. On a un apport aussi de la recherche et l'innovation, donc ce qui demande des moyens parfois conséquents. Et depuis quelques années, on observe, on va dire, une expérimentation plus massive des grands groupes industriels via ces différentes approches-là pour pouvoir proposer des solutions. Et des solutions à court, moyen et à long terme, ça c'est aussi intéressant. On ne se focalise plus seulement, et quand je dis on, je parle des grands groupes là, industriels, on se focalise plus particulièrement sur des questions de à quoi pourrait ressembler mon activité sur des temps longs, quand les ressources ne seront plus forcément accessibles, etc., plutôt que de proposer seulement des réponses court-termistes en réponse à différents enjeux environnementaux.
Tu perçois véritablement un essor autant dans le secteur public que dans le secteur privé ?
Alors, effectivement, pas forcément sur les mêmes questions. Dans le secteur public, on va travailler vraiment autour de thématiques très précises. Dans le secteur public, on va beaucoup travailler avec des acteurs de la ville et des territoires, par exemple, pour pouvoir repenser les milieux de vie, pour voir comment est-ce que les façons d'organiser les villes, par exemple, vont nous permettre demain de mieux gérer nos ressources et en même temps de bien vivre dans ces milieux qui sont quand même assez contraignants et de plus en plus pollués.
Il y a quelque chose qui revient souvent quand on évoque le biomimétisme. En fait, puiser dans la bibliothèque du vivant n'est pas forcément sans risque. La Fondation pour la recherche sur la biodiversité a d'ailleurs publié un rapport critique en 2020 sur les dérives potentielles de la bio-inspiration. Donc, dans ce rapport, ils ont mis un point d'alerte sur la mise au point de techniques par l'industrie qui accélèrent l'exploitation et la destruction des écosystèmes, ou encore la mise au point de techniques de substitution de certaines fonctions assurées par les êtres vivants, comme la pollinisation par exemple, qui impliquerait de pallier à l'effondrement des écosystèmes sans forcément s'attaquer aux causes. Est-ce qu'une innovation bio-inspirée, Guylaine, répond à des engagements éthiques particuliers ?
C'est une vraie question que je me pose tous les jours, bien évidemment. Et c'est pour ça que la sémantique aide aussi à définir cette posture. Dans le biomimétisme tel qu'on le définit en France, en tout cas, ce n'est pas forcément le cas partout dans le monde, hein, on a des approches très très différentes. Mais aujourd'hui, on est vraiment justement dans une posture éthique où le biomimétisme est autant une approche qu'une philosophie. Et ça, c'est vraiment important. On va chercher à innover par, pour et avec le vivant. Par, c'est-à-dire que c'est le chemin, la méthode que l'on va suivre pour chercher à innover plus durablement. Pour le vivant, eh bien, c'est-à-dire que l'on va chercher à réconcilier les activités humaines avec l'environnement dans lequel elles s'inscrivent. Et ça, c'est vraiment la finalité, de chercher à travailler pour tous les vivants, humains comme non humains, et avec le vivant, parce que des fois, le vivant peut être un partenaire exceptionnel dans les solutions que l'on va chercher à générer sur l'ensemble des secteurs que l'on a précédemment mentionnés. Et donc, on a ce besoin de regarder en permanence, d'avoir une sorte de pratique réflexive qui consiste à regarder en tout cas ce que l'on fait et voir si l'on est toujours dans cette posture éthique que l'on cherche à maintenir. Pour ça, il y a au sein de la Scrixebios, comme au sein du Muséum national d'histoire naturelle, par exemple, commencent à émerger des conseils d'éthique qui sont là aussi pour pouvoir répondre à des questions, pour pouvoir créer un cadre de réflexion également sur ces questions-là, pour être sûr de rester justement bien aligné avec ces objectifs de développement durable et cette posture éthique telle que nous l'entendons aujourd'hui. Et ce qui est aussi difficile à entendre et à voir, c'est que le vivant, les systèmes vivants sont une source d'inspiration pour les designers biomiméticiens, mais il y a plus d'espèces qui disparaissent tous les jours que d'espèces que l'on découvre. Et donc pour moi, c'est aussi quelque part une sorte d'invitation à protéger ce vivant qui disparaît plus vite qu'on arrive justement à l'observer, le décrire et l'analyser. Et donc, on est aussi là-dessus. Autant la finalité du projet que la méthode ou l'approche que l'on suit, en fait, est une invitation à cette protection, en fait, des systèmes vivants. Et donc, on est vraiment dans ce cadre d'une approche qui rejoint les engagements éthiques particuliers. Et en tout cas, moi, j'essaie de m'y atteler tous les jours. Alors, on fait forcément des erreurs, mais on expérimente des outils, des méthodes. On en discute avec un ensemble de disciplines qui nous permettent aussi d'y réfléchir ensemble. Et on peut se tromper parfois, mais en tout cas, la démarche que l'on suit est une démarche qui vise à aller dans cette direction-là.
Donc c'est une démarche plutôt agile qui est en construction permanente et évolutive, comme justement les systèmes vivants. J'imagine qu'il faut aussi faire preuve de beaucoup d'humilité justement pour puiser dans la bibliothèque du vivant. Est-ce que, d'après toi, il y a des règles à respecter pour entrer dans une démarche de soutenabilité et de biocompatibilité avec le règne du vivant ?
Alors oui, bien évidemment, il y a déjà en fait, la question de posture, comme on a évoqué. C'est la première chose, hein, être droit dans ses bottes et avoir des objectifs clairs. Et ensuite, on peut aussi s'outiller. On peut s'outiller en intégrant et en implémentant différents outils de mesure d'impact dans ces méthodologies de conception, comme on peut aussi se rapprocher d'acteurs ou de disciplines qui vont permettre justement soit d'anticiper les impacts, soit de les mesurer, de les identifier et de les mesurer pour pouvoir après les prendre en compte dans la proposition de design que l'on va effectuer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de se dire que dans une démarche de design biomimétique, on va d'une part avoir un réseau de disciplines qui intègre différentes disciplines qui vont nous aider justement à intégrer ces différents enjeux-là liés à l'éco-conception, mais également aussi implémenter un ensemble d'outils qu'on va pouvoir mobiliser, hein, bien évidemment, à différents stades de la conception, voire même en fait de l'idéation, des stades plus amont, jusqu'à justement après mesurer des choses qui sont plus abouties à l'échelle d'un produit, par exemple, qui peut être maquetté ou prototypé. Et donc, à ces différents stades du processus de design, on va pouvoir mettre des outils différents pour pouvoir nous aider justement à faire les bons choix. Alors, c'est pas toujours évident parce que ces outils sont pas toujours au point. Il y a des choses que l'on cherche à mesurer pour lesquelles, en fait, il est encore très très difficile justement de chercher les bons indicateurs. Et je pense notamment à l'impact que vont avoir la solution que l'on imagine sur la société. C'est tellement complexe qu'aujourd'hui, il y a quelques outils qui vont nous aider justement à avoir l'impact que l'on va avoir sur les sociétés, en plus de l'impact que l'on va avoir sur l'environnement, mais il nous manque encore beaucoup de données. Et donc, c'est des choses qu'il faut aussi chercher à développer, et c'est ça que j'aime dans ce métier-là aussi, c'est-à-dire qu'on va être dans une démarche un peu nouvelle, et donc les outils, les méthodes que l'on va utiliser ne sont pas des outils et des méthodes traditionnelles du design. On va devoir développer nos propres méthodologies, nos propres outils qui vont nous permettre justement de travailler de manière inter- et multidisciplinaire sur différentes problématiques et d'intégrer un ensemble d'outils hérités souvent de l'ingénierie qu'on va mobiliser justement pour pouvoir muscler notre approche, pour pouvoir amener des réponses qui sont pertinentes sur le point de vue environnemental, on va dire.
Donc, tu nous parles d'outils plutôt de mesures, d'évaluation qui seraient plutôt du coup rationnelles. Comment est-ce que tu combles un petit peu les creux dans la connaissance du vivant ?
Oui, et ben justement, ça fait partie des choses que l'on mène aussi. On va devoir parfois produire des connaissances. Et ça, c'est encore une fois quelque chose de relativement peu courant dans une approche de design. On va se rendre compte qu'il nous manque des méthodes et des outils, mais aussi de la connaissance, effectivement, comme tu le disais. Et dans cette démarche-là, eh bien, il faut aussi accepter que parfois, il va falloir mettre un effort sur la production de connaissances via en travaillant avec des chercheurs ou en finançant des thèses, par exemple. Voilà, il y a tout un tas de manières de faire, mais ça veut dire aussi travailler sur des temps plus longs. Et ça, c'est aussi assez intéressant et agréable d'accepter en fait, de prendre le temps de combler les manques pour pouvoir amener des réponses qui sont les plus pertinentes possibles.
J'imagine qu'à travers cette démarche, il y a également une appréhension assez sensible des enjeux. Est-ce que le biomimétisme peut justement contribuer à résoudre certains des défis mondiaux actuels ? Et du coup, quelles peuvent également en être ses limites ?
Alors oui, bien évidemment. lorsque l'on regarde les défis auxquels on fait face aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que les systèmes vivants sont champions pour pouvoir y répondre. Sur les questions de traitement de la pollution, sur la question de gestion de ressources, sur les questions d'accès à l'eau, par exemple, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a plein de solutions qui existent dans la nature dont on peut s'inspirer aujourd'hui pour ramener des réponses qui sont facilement implémentables, on va dire. Et donc, il y a dans cette approche-là quelque chose qui est assez riche. Et donc ça va nous permettre justement de développer des solutions en réponse à ces différentes problématiques.
J'imagine qu'il y a également une appréhension assez sensible des enjeux. Est-ce que le biomimétisme peut justement contribuer à résoudre certains des défis mondiaux actuels et à venir ?
Alors oui, bien évidemment, lorsqu'on regarde les systèmes vivants à ces différentes échelles, eh bien on peut y trouver tout un tas de solutions pour pouvoir y répondre. Y répondre soit de manière très précise sur différents types de problématiques, comme par exemple la question de l'accès à l'eau que l'on mentionnait précédemment. Eh bien, pour pouvoir accéder à l'eau dans le vivant, chaque organisme vivant a besoin d'eau pour pouvoir vivre et donc à développer des stratégies singulières pour pouvoir capter cette eau-là, la stocker, la distribuer, etc. Et donc, on peut s'en inspirer pour mettre en point les solutions qui pourraient être implémentées demain dans la société. Mais c'est aussi une façon de regarder les problèmes de manière aussi systémique. Donc beaucoup des problématiques auxquelles on fait face sont des problématiques systémiques autour de l'alimentation, par exemple. Il y a un vrai enjeu aussi là-dessus. Et donc voir les manières dont on gère nos ressources par le prisme du vivant est une façon assez intéressante de faire. Donc, par exemple, dans les écosystèmes naturels, tout est géré de manière circulaire. Les écosystèmes sont clos mais ouverts, il y a quand même des choses qui rentrent, mais chacun des flux de matière, d'énergie et d'information est géré de manière circulaire. Donc on fait avec des ressources qui sont locales, avec des sources d'énergie qui sont libres et disponibles. Donc il y a tout un tas de grands principes qu'on appelle les principes inspirés du vivant que l'on peut chercher à respecter pour pouvoir optimiser la façon dont on gère nos ressources et ainsi mieux les partager et ne pas générer de pollution, ne pas générer de déchets, etc. Et donc on peut bien évidemment répondre à ces différents challenges, mais de manière aussi beaucoup plus soutenable, ça c'est intéressant. Et donc il y a aussi une manière de regarder les choses, on va aussi regarder les fameux objectifs de développement durable définis par l'ONU, pour les mettre aussi un petit peu en objectif, pour pouvoir voir quelles questions on a envie de traiter, et ça c'est aussi quelque chose qui va guider notre travail.
Est-ce que justement les objectifs de développement durable qui sont proposés par l'ONU te servent un petit peu de référentiel pour prioriser les projets que tu vas traiter ?
Alors effectivement, ces objectifs sont au nombre de 17 et ils nous servent de cadre pour les projets qui sont menés au sein de l'agence. Ils ne vont pas nous servir à prioriser les projets les uns par rapport aux autres, mais par contre à savoir quels projets l'on traite et quels projets on va évacuer. Donc tous les projets qui sont traités à l'agence doivent répondre à des objectifs de développement durable. Ça, c'est vraiment le fil conducteur, le fil rouge de tous nos projets. Et ceux qui en sortent, eh bien, on décide de ne pas travailler dessus.
On parlait d'éthique, on parlait de champ des connaissances. Est-ce qu'il y a d'autres limites que toi, tu as identifiées à travers ta pratique ?
Alors, bien évidemment, le biomimétisme étant une approche qui est multi-interdisciplinaire, il y a plein de limites à ça. Donc, pour faire du biomimétisme, on va avoir besoin de faire coopérer des gens qui viennent des sciences de la vie avec des gens qui viennent des métiers de la conception, l'ingénierie, le design, l'architecture ou encore l'urbanisme, par exemple. Lorsqu'on est dans le cadre de la bio-inspiration, l'art aussi souvent travaille avec des biologistes. Hein, donc on n'évacue pas ça. Et pour faire ce travail multi-interdisciplinaire, il va nous manquer plein de choses. Parce que historiquement, eh bien, on est plutôt issus de disciplines qui sont cloisonnées, etc. Et le design est super intéressant pour ça, parce qu'il va nous permettre de travailler d'une part sur les réponses que l'on va faire à différentes problématiques, mais en même temps sur la méthode que l'on va concevoir et mettre en place pour pouvoir y arriver. Et donc, on se rend compte que lorsque l'on travaille à l'interface entre les sciences et le design, comme on peut le faire, il y a plein de verrous à ça. On ne parle pas le même langage entre scientifiques et designers, ça c'est très très important. Donc il faut qu'on s'accorde sur un lexique commun. On n'a pas forcément les mêmes finalités de projet. C'est-à-dire que un scientifique va devoir livrer des articles, organiser des colloques, etc. Alors que nous, eh bien, on va devoir livrer des produits, des services, etc. Donc on n'est pas encore sur, on n'est pas encore bien aligné là-dessus. Et ça, c'est important de travailler justement sur une finalité de projet commune pour pouvoir bien travailler ensemble. On ne travaille pas non plus aux mêmes échelles temporelles, puisque un designer industriel, comme j'ai été formé, travaille sur les temps de l'industrie. Donc les projets, c'est 6 mois, 3 ans pour une mise sur le marché classique, alors que les temps de la recherche peuvent être beaucoup plus longs. Et donc là, encore une fois, il faut aussi trouver un temps commun pour avancer sur ces projets ensemble. On ne travaille pas dans les mêmes lieux, ça c'est aussi important. Hein. Est-ce que l'on doit travailler dans un laboratoire ou dans un studio de design ou dans un lieu qui intègre les différentes cultures, eh bien, il faut aussi trouver le bon intermédiaire ou le bon lieu qui fasse l'interface entre ces différentes disciplines. On n'a parfois pas les mêmes notions d'éthique, donc il faut aussi qu'on s'accorde sur cette fameuse posture que l'on a évoquée. Donc voilà, donc en gros, on n'a pas aussi les mêmes méthodes, pas les mêmes outils. Donc il y a plein de choses qui font que travailler ensemble ne va pas forcément de soi. Et surtout que, historiquement, on n'apprenait pas forcément ces coopérations-là à l'école non plus, lorsque l'on était formé. Donc il y a aussi un vrai enjeu de formation, et on reviendra dessus tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, ces freins, ils existent donc au sein des équipes multi-interdisciplinaires qui vont faire ce fameux biomimétisme, en plus qu'ils existent aussi au sein des entreprises qui vont chercher à le mobiliser. Parce qu'une approche comme ça peut prendre du temps, comme on a évoqué. S'il nous manque des connaissances, on va devoir les produire avant de proposer une solution qui tienne la route. Une approche qui nécessite l'implémentation de différentes disciplines peut coûter aussi potentiellement plus cher. Donc il y a tout un tas de freins à ça qui peuvent limiter le fait de faire appel au biomimétisme pour pouvoir développer des solutions plus soutenables en réponse à différentes problématiques.
Donc toi, tu travailles quotidiennement avec des scientifiques. J'imagine que lorsque tu as débuté, ce n'était pas forcément attendu de trouver le design dans des laboratoires de recherche. Est-ce que tu as dû prouver une certaine légitimité vis-à-vis de la discipline ?
Alors, quand j'ai commencé, il y a une quinzaine d'années, à explorer les systèmes vivants pour concevoir des innovations, effectivement, j'ai commencé à aller identifier des chercheurs qui avaient envie de travailler avec des designers. Et donc ça, c'était la première chose. Donc, quand j'ai commencé, je me baladais dans les laboratoires de Paris avec mon petit sac à dos. Et de manière volontairement naïve, j'allais frapper aux portes pour pouvoir trouver des partenaires scientifiques avec qui travailler. Et c'est vrai qu'on se heurtait au début à la méconnaissance du design par les scientifiques. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était aussi difficile, parce que le design, on a encore l'idée que c'est faire du beau, que c'est faire des chaises, des voitures, du style. Et donc, on jouit encore d'une mauvaise image ou d'une incompréhension de ce qu'est réellement le design et de ce qu'il peut produire. Et donc, aujourd'hui, on a une culture de design, on va dire, qui a évolué dans le design, parce qu'il y a eu quand même pas mal de recherches qui ont été menées sur les coopérations entre art, science et design, qui ont été bénéfiques pour les communautés de designers, qui ont pu justement avoir moins peur des sciences, mais qui étaient également bénéfiques pour les communautés scientifiques, qui ont pu mieux comprendre ce que le design peut leur apporter, tant dans les résultats que sur la démarche ou l'approche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on coopère tous les jours avec des chercheurs, et je n'ai plus du tout ce problème de devoir expliquer ma démarche et de faire face à une incompréhension ou à un dénigrement même d'un public scientifique, par exemple. Les gens comprennent assez facilement ce que l'on peut leur apporter et ce que eux peuvent nous apporter dans cette démarche biomimétique. Et donc il y a une sorte d'envie mutuelle qui s'est créée, une envie de travailler ensemble justement pour pouvoir, pour des questions et de curiosité et de finalité de projet, avancer ensemble sur différentes typologies de projets. Alors effectivement, sur un projet de design, on ne va pas mobiliser forcément les mêmes chercheurs au même moment d'un projet. Et ça, c'est aussi important. Toutes les disciplines ne doivent pas être intégrées en fait, sur l'ensemble du fil rouge qu'est un projet de design. Mais on va être en mesure justement de se créer un réseau, une communauté de chercheurs qui va nous permettre justement d'avancer sur un projet donné.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du profil des personnes avec qui tu collabores ?
Alors c'est très varié, puisque on va pouvoir regarder autant des choses qui sont très nano-micro dans le vivant, autant que des choses qui sont beaucoup plus systémiques à l'échelle du fonctionnement d'un écosystème ou de la biosphère. Et donc ça veut dire qu'on va aussi travailler avec différents types de chercheurs. Des gens qui vont regarder le très petit et des gens qui vont regarder le très grand. Et donc parfois on va travailler avec des microbiologistes qui vont être spécialisés dans... regarder les différents types de micro-organismes, autant que l'on va pouvoir travailler avec des écologues qui, eux, vont être spécialisés dans l'observation et la compréhension des interactions qui peuvent exister au sein d'un écosystème. Et on a donc besoin d'accéder à cette diversité de chercheurs et des partenariats avec des institutions comme le Muséum National d'Histoire Naturelle, par exemple, sont des réelles opportunités pour se forger et fonder ce réseau-là. Le Muséum... on le connaît pour sa vitrine qui est un musée, mais c'est avant tout un centre de recherche lié justement à la conservation de la biodiversité. Et donc la mission, elle rejoint la mission que l'on s'est donnée dans cette philosophie du biomimétisme, et on peut chercher à coopérer avec l'ensemble des chercheurs qui travaillent là-bas pour pouvoir justement regarder le vivant à ses différentes échelles et nous aider à concevoir les solutions qui vont répondre à différents problèmes.
Donc c'est finalement aussi une sorte de communauté. On parlait des codes scientifiques. Est-ce que toi, justement, tu as intégré certains de ces codes qui émanent des sciences dans ta pratique de designer ? Je pense notamment à la recherche en design qui tend à se développer, ont amené petit à petit à publier des articles, entre guillemets, scientifiques. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu fais aujourd'hui ?
Alors oui, il y a dans notre démarche, on va avoir une démarche de recherche scientifique souvent en amont, avant de passer justement au volet conception, où là on va plutôt revenir vers une démarche de designer un peu plus classique entre guillemets. Mais on a besoin justement de pouvoir observer ou analyser les choses, et bien on va mettre en place des protocoles, on va mettre en place des outils pour pouvoir mesurer en fait des choses, etc. Et donc on va toujours aussi avoir une sorte de pratique réflexive qui va nous permettre aussi en même temps d'améliorer nos méthodologies et nos outils en même temps que l'on pratique le projet dans une démarche plutôt de recherche-action, de recherche-création quelque part.
Et quelles sont d'après toi les principales difficultés auxquelles les designers biomiméticiens sont confrontés lorsqu'ils tentent d'intégrer la nature dans leur processus de conception ?
Alors je pense notamment à la donnée que l'on va mobiliser, notre source d'inspiration même, qui est la donnée biologique. Et donc dans notre processus, on va donc identifier différents problèmes auxquels on va chercher à répondre, et on va regarder comment les systèmes vivants font pour y répondre. Et donc on va identifier ce que l'on appelle des modèles biologiques d'intérêt, qui sont en fait des stratégies développées par les espèces pour répondre aux problèmes que l'on cherche à résoudre. Le problème, c'est que cette donnée-là, elle est faite par des biologistes et pour des biologistes. Et en plus de ça, eh bien, ces données sont propriétaires. Elles sont en général stockées dans des bases de données pour lesquelles il faut payer des très grandes sommes pour pouvoir y accéder. Et donc ça, c'est aussi un frein. Et donc, ce qu'il faudrait faire pour faciliter ce travail-là, et ce sur quoi aussi on peut travailler avec différents partenaires, c'est de faire en sorte que cette donnée biologique, elle soit aussi accessible à des non-scientifiques, et notamment à des gens issus des métiers de la conception, pour pouvoir justement la mobiliser et la transférer et l'adapter dans des innovations bio-inspirées qui vont répondre à ces objectifs de développement durable. On peut aussi travailler sur l'ouverture de ces différentes données pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse s'en saisir. Et je sais que il y a des initiatives, notamment d'institutions publiques, qui permettent de dire que cette donnée-là scientifique, elle fait partie du patrimoine que l'on peut mobiliser gratuitement parce qu'il appartient à tous quelque part. Et donc la question des communs quelque part, elle est aussi intéressante à explorer sur ces questions-là. Donc cette donnée pour moi est un frein, comme elle peut être une opportunité, mais il faut aussi la penser comme un commun et non plus comme quelque chose de propriétaire.
Effectivement, vous vous basez quand même sur un patrimoine naturel, on va dire, commun. Est-ce qu'il y a justement des ressources sur lesquelles toi ou d'autres experts, vous travaillez pour enrichir ce référentiel commun et pouvoir rendre accessible de la donnée au monde de l'entreprise ?
Alors, on travaille sur un ensemble d'outils qui nous permettent justement de booster notre méthodologie. Et donc, on peut travailler sur ce que l'on appelle les outils de fouille de la donnée biologique, par exemple, qui vont nous permettre d'explorer la littérature scientifique pour pouvoir identifier les bonnes stratégies qui existent dans le vivant et qui vont nous permettre de répondre à un problème donné. Et donc, par exemple, on a créé un outil qui s'appelle OK Gaia, qui est une sorte de Google du vivant. C'est vraiment ce qu'on appelle un outil de fouille de la donnée biologique et qui va permettre à des non-scientifiques de poser une question au vivant pour pouvoir y trouver la réponse. Par exemple, si demain, un architecte veut créer un bâtiment qui participe à séquestrer le carbone, eh bien, il va demander à OK Gaia quelles espèces ont développé des stratégies d'intérêt pour séquestrer le carbone. Et ça, il en existe des milliers, des centaines de milliers de stratégies différentes. Et donc, la littérature scientifique va être explorée par une intelligence artificielle qui va permettre justement de ramener à l'architecte un ensemble de modèles biologiques inspirants qui ont développé des stratégies d'intérêt qui vont pouvoir inspirer l'architecte dans la conception et de matériaux et de formes d'habitat, par exemple, qui vont avoir pour mission de séquestrer le carbone. Donc ça fait partie des choses que l'on peut développer, et notamment ce projet-là, on l'a développé en partenariat avec Centrale Supélec. C'était une collaboration très riche, mais comme on peut aussi travailler sur le développement de méthodologies qui vont permettre à tout type de public de pouvoir justement mobiliser la méthodologie, et c'est notamment le cas d'un projet qui s'appelle ESM Explorer que l'on a conçu avec une équipe de recherche de l'UTC, de la PESA et l'IRT Systemics notamment, et quelques autres laboratoires de recherche pour pouvoir justement rendre accessible à des entreprises comme à des gens issus du milieu associatif ou des individuels des méthodes qu'ils peuvent justement mobiliser pour pouvoir s'accaparer cette démarche-là et générer des propositions qui font sens et qui répondent à ces objectifs de développement durable.
Est-ce qu'on peut parler de vulgarisation scientifique ?
Alors la vulgarisation est une partie, on va dire, du projet, on va dire, mais on a besoin de vulgariser. Mais en général, dans la vulgarisation, on peut perdre aussi de la donnée. C'est là qu'il faut faire attention. Vulgariser, c'est bien pour comprendre des concepts, mais lorsque l'on veut comprendre finement un mécanisme issu du vivant, et si je reprends l'exemple de la séquestration du carbone, plus on vulgarise, plus on perd de la précision de l'information et moins on risque de comprendre le mécanisme en question que l'on va chercher à imiter pour pouvoir créer cette solution nouvelle qui s'en inspire. Et donc, moi, j'irais plutôt sur une question de traduction. Comment est-ce que l'on va traduire des données scientifiques complexes en des données qui vont être compréhensibles par des non-scientifiques que sont les architectes, les designers, les ingénieurs, etc. Et donc ça, c'est vraiment important. Il y a un pont à faire pour pouvoir justement faire comprendre des choses très très compliquées à des choses qui n'ont pas cette culture scientifique. Et ça, typiquement, ça peut passer par des efforts de traduction sémantique comme justement des illustrations graphiques, des photos, des vidéos, tout un tas de choses comme ça, pour vraiment, via une approche multimédia, essayer de partager ces connaissances-là à d'autres types de publics.
Donc on se rend bien compte qu'on n'est pas sur une approche individualiste, qu'il y a un réel enjeu de rendre accessible cette démarche d'innovation pour en décupler les impacts.
Complètement. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et ça rejoint aussi l'un des piliers de l'agence qui est lié en fait à l'éducation. Donc on va faire de la recherche, de l'innovation et l'éducation, c'est-à-dire que les outils et les méthodes que l'on développe, on cherche aussi à les partager à différents types de publics, autant le grand public qu'un public industriel et scientifique, pour pouvoir montrer que le biomimétisme peut être une voie parmi d'autres, parce que ce n'est certainement pas la seule, pour pouvoir justement adresser les enjeux contemporains par des approches un peu différentes que de ce que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, ça peut se faire par des enseignements, des conférences, tout un tas de choses comme ça, mais aussi par le fait de pouvoir partager ces données-là avec ces différents publics pour pouvoir décupler la puissance de cette approche-là et surtout faire se rejoindre à l'objectif qui est celle d'abaisser l'empreinte de l'homme sur l'environnement.
On va revenir un petit peu sur le volet justement éducatif. Donc toi, tu es responsable du Master Bio-Inspired Design à Nancy Les Ateliers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du profil de tes étudiants et du type de structure auquel ils sont rattachés ?
Étant dans une démarche multi-interdisciplinaire, nos étudiants reflètent un petit peu cette diversité de disciplines que l'on doit mettre autour de la table. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. On est déjà dans des petites promotions. On ne prend que peu d'étudiants pour avoir un suivi de qualité, hein, l'approche étant extrêmement complexe. On prend soin justement à bien leur transmettre. Et donc, on a des profils qui sont issus de différentes disciplines, autant des designers et des ingénieurs, voire même des architectes, on en a eu, que des biologistes, des chimistes, les gens qui sont plus aussi écologues, par exemple. Donc voilà, des gens qui sont représentatifs des métiers et des disciplines que l'on va retrouver dans une démarche de biomimétisme. Et ça, c'est vraiment important. Parce que à l'ENSI, on apprend par le projet. Alors, on a une formation en 3 temps, hein, un premier temps qui est vraiment théorique. Ça, c'est important. On a 30 à 40 intervenants qui vont leur transmettre l'essence de l'approche philosophique, qui vont leur transmettre des connaissances autour de l'éthique. On a du droit de l'environnement. On a tout un tas d'enseignements comme ça qui vont leur permettre de connaître la méthodologie avant de pouvoir l'appliquer dans un second temps. Et ce qui nous amène justement à travailler après avec des acteurs publics ou privés sur des sujets fictifs, mais qui pourrait être proposé par une entreprise demain pour voir comment est-ce qu'on répond à telle ou telle problématique par le design et le biomimétisme. Ça, c'est important. Donc, ils vont appliquer toutes ces connaissances-là de manière pratique sur différents sujets. Et puis, enfin, ils vont travailler au sein d'une organisation, donc soit dans le cadre d'une mission professionnelle, soit dans le cadre d'un stage, et en même temps, développer une réflexion critique qui va leur être personnelle au travers de la rédaction d'un mémoire, et ils vont soutenir tout ça au bout d'un an. Et donc ça, c'est important pour nous, hein, d'avoir cette diversité des métiers représentés et en même temps un aspect théorie, pratique et réflexion critique et appliquée aussi au sein d'une entreprise. Et donc c'est ce qui fait qu'à la sortie de cette formation-là, ils vont être à même justement, ils vont avoir les compétences nécessaires pour pouvoir développer et proposer des solutions biomimétiques.
Je me questionne un peu par rapport au format d'enseignement. Comme tu le disais, tu as des profils, par exemple, ingénieurs qui sont peut-être très rationnels. Est-ce que pour justement les amener vers une approche un peu plus sensible, il y a un moment où tu les emmènes sur le terrain pour faire de l'observation, être vraiment rencontrer les acteurs?
On commence même par ça. La première semaine de formation des étudiants se déroule à la station marine du Muséum national d'histoire naturelle à Concarneau. Et pendant une semaine, on les amène à travailler avec des spécialistes des requins, des spécialistes de la transition en fait, de la larve vers le stade adulte chez les poissons, avec des spécialistes de l'écolocation chez les chauves-souris, les spécialistes du lichen, voilà, tout un tas d'experts comme ça qui sont liés à des espèces marines ou que l'on retrouve sur le littoral. Et en travaillant soit dans les laboratoires, soit sur le terrain, sur l'estran, voire même sur la mer, on peut les amener aussi à faire des balades en mer. Et donc ça leur permet d'une part de faire connaissance et de commencer à identifier que, comme on le disait tout à l'heure, il y a plein de freins à ces coopérations entre ces différentes disciplines qui sont elles-mêmes représentées au sein du master, et pouvoir commencer justement à trouver des réponses à ces différents freins, en tout cas de réussir à les lever. Et donc, on amène aussi quelques étudiants du Muséum d'histoire naturelle, les gens qui sont en master ou les gens qui sont en thèse, pour pouvoir commencer aussi à leur faire comprendre qu'il faut créer un réseau qui va bien au-delà en fait, d'un simple réseau fait de designers, ce qui serait facile à l'ENSI, mais bien, par contre d'aller chercher aussi autour, dans le réseau de partenaires, mais pas que, pour pouvoir justement se constituer leur propre réseau justement de chercheurs qu'ils vont pouvoir mobiliser plus tard lorsqu'ils seront formés, lorsqu'ils seront chefs de projet en design et biomimétisme.
Et quelles sont vis-à-vis de ces étudiants justement les compétences et les connaissances essentielles à leur transmettre ?
Alors, ces compétences-là, elles sont très variées. On a différents blocs qui sont importants à leur transmettre. Donc, je dirais que la première chose à faire serait de leur apprendre vraiment à savoir observer, analyser et comprendre l'état du monde. Cela en étudiant le contexte, en réalisant des veilles et en conduisant une réflexion stratégique pour reformuler les problématiques qui sont proposées. C'est souvent le premier stade du projet. On doit reposer la question ou poser la bonne question, qui est souvent un petit peu décentrée de celle qui est proposée en point de départ. Après, on cherche aussi à leur apprendre à accompagner la démarche auprès d'acteurs publics ou privés. Et ça peut se faire en leur permettant d'identifier les bonnes disciplines à mettre autour de la table, mais aussi en leur permettant de bien dérouler la méthodologie d'un projet de design et de biomimétisme, de pouvoir générer des scénarios et des propositions biomimétiques, mais aussi de les évaluer sur le plan environnemental notamment, et de leur être en mesure aussi de proposer une stratégie d'implémentation pour voir comment est-ce que ça peut s'implémenter dans un secteur donné ou largement dans la société, et en même temps leur donner les outils pour promouvoir cette démarche-là au sein d'une organisation pour remporter l'adhésion des décideurs ou des équipes ou à l'extérieur.
Donc tu parles de différents outils et justement de l'observation, donc ça me fait penser justement au processus un petit peu de design thinking. On a toujours une question aujourd'hui puisqu'on voit apparaître des limites. C'est une question assez ouverte que je te pose et qui nourrit une réflexion qu'on a, nous, à la D-School. Comment est-ce qu'on peut faire pour observer et interroger des êtres vivants non humains? Et est-ce que, d'après toi, est-ce que c'est possible de le faire?
Alors, ce sont encore des outils qui sont très limités. Alors, dans le design, ce qui est aujourd'hui expérimenté, c'est qu'on va transformer un petit peu des outils d'observation que l'on va chercher à désanthropocentrer, pour pouvoir aller voir quel est le contexte d'un individu issu d'une espèce en particulier, quelles sont ses interactions avec l'environnement ou les autres communautés en fait, avec lesquelles cette espèce peut potentiellement interagir. Donc il y a des outils comme ça qui sont en développement, mais c'est encore très limité. Mais la première chose que l'on fait dans le master, c'est de leur apprendre à identifier les spécialistes de telle ou telle espèce, justement. Alors, grâce à ce partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle, mais on pourrait le faire avec tout un tas d'autres institutions, hein, en France comme à l'étranger, on peut aussi, grâce à une cartographie de ces différents acteurs, identifier les spécialistes des espèces que l'on va devoir prendre en compte dans la conception pour pouvoir justement dialoguer avec ces experts, pour pouvoir bien comprendre les spécificités de l'espèce que l'on veut prendre en compte dans la conception et pour pouvoir après faire proposition. Donc pour moi, ça c'est vraiment le premier niveau de cette question d'intégration en fait du vivant non humain dans une démarche de design biomimétique, c'est d'aller en fait interroger les experts de ces espèces, mais surtout pas de regarder ça d'une manière très micro, mais aussi de bien penser à avoir cette même démarche, mais à l'échelle systémique, parce que toutes les espèces sont liées au sein d'un écosystème donné. Et si l'on développe une solution pour une espèce, eh bien, il va peut-être exister des effets rebonds qui vont être néfastes pour d'autres espèces à côté, parce qu'on n'aura pas pensé à intégrer justement l'ensemble, la vision systémique. Et donc ça, c'est vraiment important d'adopter, de travailler avec des experts de l'espèce en question autant que des experts justement de l'écosystème dans son ensemble pour pouvoir avoir une vision globale des choses et toujours garder à l'esprit aussi que on est tributaire de l'état de la connaissance liée en fait à ce vivant-là, sachant qu'on en connaît très peu. Hein. Et déjà, le vivant, c'est 2 millions d'espèces connues et décrites sur 10 à 20 millions d'espèces qui peupleraient la Terre aujourd'hui, et certains parlent même de 100 millions d'espèces si on prend en compte l'ensemble des micro-organismes, ce qui est assez énorme. Donc il faut aussi être très humble vis-à-vis de ça, et savoir que autant dans les manières d'observer que d'analyser que de faire proposition, eh bien tout est bien évidemment à améliorer et il nous manque plein de données, et ça il faut en être conscient.
Est-ce que tu travailles justement aussi avec les espèces disparues et des spécialistes comme des paléontologues?
Alors oui, exactement. Donc j'ai pu même donner cours là-dessus, sur ce qu'on appelle la paléo-inspiration, paléo-bio-inspiration, selon les écoles. Et donc, on a, on dit que le vivant, c'est 3,8 milliards de recherche et développement, parce que eh bien, tout un tas d'espèces ont peuplé la Terre depuis l'apparition de la vie jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ont disparu parce qu'elles n'étaient plus forcément adaptées à un milieu donné et à un moment donné. Mais il faut prendre en compte le fait que même aujourd'hui, notre environnement et le climat sont en train de changer, et peut-être que vers là où on se dirige, dans le passé, il y a eu des environnements et des climats un peu similaires, et peut-être que des espèces ont déjà développé des stratégies singulières qui étaient très adaptées justement à ces environnements-là, pour par exemple séquestrer le carbone, comme on a dit, et capter l'eau, etc. Et on pourrait très bien regarder ce vivant passé pour pouvoir trouver des solutions qui seraient adaptées à l'évolution du monde actuel, ou en tout cas vers là où on se dirige en termes de température, etc. Donc c'est une démarche aussi assez intéressante, mais qui est très très difficile à mener, parce que pour connaître ce vivant-là, on se base que sur les traces qui ont été laissées. Et les traces qui ont été laissées sont souvent les os, les dents, parfois des empreintes de pas, de plumes, etc. Et donc on n'a qu'une connaissance partielle de ce vivant-là. C'est une interprétation souvent qui est faite sur la base du vivant actuel aussi, pour pouvoir faire des hypothèses. Mais le potentiel est assez énorme, sachant le nombre d'espèces qui ont peuplé la Terre en fait, dans ces milliards d'années passées.
Pour conclure, on a l'habitude de terminer nos podcasts avec une recommandation, un livre, un podcast, un documentaire ou encore des articles. Qu'est-ce que toi, tu peux nous proposer pour inspirer ou initier l'audience justement à cette pratique ?
J'aurais deux publications à proposer. La première est le livre « Biomimétisme, quand la nature inspire des innovations durables » qui a été écrit par Janine Benus. Alors, initialement 1997 pour l'édition originale, mais qui a été publié en 2011 en français, par Rue de l'Échiquier. Et c'est un petit peu l'ouvrage fondateur du biomimétisme tel qu'on peut le pratiquer en France. Donc, c'est-à-dire cet aspect plutôt philosophique, autant que méthodologique, plutôt qu'une seule démarche en fait, liée à l'innovation. Et donc ça, c'est vraiment important, hein, en fait, parce que ça pose les bases de comment est-ce qu'on peut chercher à innover par, pour et avec le vivant. Donc ça, c'est vraiment pour moi le point de départ de cette approche. Si l'on veut faire du biomimétisme aujourd'hui, eh bien, on gagnerait à lire ce livre pour pouvoir démarrer. Une deuxième référence qui intègre moins les questions de soutenabilité, mais qui est très intéressante aussi, que j'ai beaucoup aimé lire, il s'agit des arts et métiers chez les animaux, qui a été écrit par Henri Coupin. La première édition date, hein, c'est 1903. Et donc, c'était une première façon de pouvoir dire, regarder et catégoriser le vivant autour des arts et métiers. C'est-à-dire que l'ouvrage est structuré autour de différents métiers comme les tisserands, les bâtisseurs, etc. Et on commence à voir des bactéries, des vers, des insectes, des oiseaux, voir un petit peu quelles stratégies elles mettent en œuvre pour pouvoir fabriquer leur habitat, préparer un nid. Donc voilà. Et ça, je trouvais ça intéressant parce qu'on a déjà un premier rapport un peu lié à, de manière très fonctionnelle finalement, au métier qu'on pourrait en fait rapprocher au métier humain. Et après, il manque juste la couche liée objectifs de développement durable à rapprocher. Mais pour 1903, je trouve ça super intéressant en fait, de se dire qu'il y a quelqu'un qui a regardé le vivant sous le prisme des arts et métiers, qui a commencé en fait, à structurer tout ça pour pouvoir nous proposer cette vision-là. Et c'est un peu déjà une démarche de biomimétisme. Et elle serait complète si on intégrait cette couche d'éco-conception. Mais ce sont deux très jolis ouvrages à découvrir.
Super, merci Guylaine pour toutes ces références et pour ton retour d'expérience. Tu nous as fourni un éclairage très riche sur le sujet qui, j'espère, pourra inspirer notre audience.
Merci.